Matthieu 10, on va lire ce soir. Ben, notre texte pour ce soir est plus limité que ce qu'on va lire, mais juste pour se remettre un peu dans le bain, parce que voyez-vous, on est à la troisième semaine, pas consécutive, la semaine passée, c'était le repas du Seigneur, mais à considérer la mission apostolique qu'on a à partir du verset 5. Et jusqu'au verset 23, ben là, on est rendu, on va commencer au verset 16, puis on va aller jusqu'au verset 23. Donc, Matthieu 10, 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à leur main, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Donc, la mission apostolique, c'est notre troisième message et troisième et dernier qu'on considère sur ce thème qui est en partie dans les versets qu'on a lus, mais ça commençait même avant, comme je le disais. Et ce soir, j'aimerais aller plus précisément parce que dernier message, on était jusqu'au verset 18. Fait que là, on va partir à partir du verset 19 ce soir. Mais avant, j'aimerais juste vous donner un élément important par rapport à l'ensemble du texte qu'on vient de lire. OK? Vous faire remarquer quelque chose d'important dans la section de ce qu'on vient de lire, qui fait partie de ce qu'on étudie ce soir. OK. D'abord, il faut comprendre, c'est évident que Jésus-Christ là, donne des instructions ici, OK, par rapport à la mission apostolique, dans un contexte de persécution. OK? C'est évident quand on dit ça, là, si je veux dire, c'est pas la facilité, puis le tapis rouge qui est déroulé devant les apôtres, non. Vraiment, on voit qu'il y a de l'opposition, puis OK, ça transparaît hein, dans ce qu'on a lu. Et on voit ça par l'expression aussi, les loups. C'est-à-dire, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. OK? Et je veux juste amener une observation ici par rapport, il y a quatre domaines où est-ce qu'on voit, où est-ce que les disciples de Jésus-Christ sont envoyés parmi les loups, ou quatre endroits où est-ce qu'ils trouvent des loups, OK, dans le texte qu'on a lu. OK, je vous le fais remarquer. D'abord, les loups dans la religion. Regardez au verset 17. « Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux. Ils vous battront de verges ou dans leur synagogue. » On sait qu'à travers l'histoire, une grande persécution, une grande source d'où est venue les persécutions des vrais chrétiens, c'était beaucoup par la religion. Ici, on dit les synagogues, c'est vrai au début de l'histoire de l'Église. L'Église primitive, qui était majoritairement composée de juifs, était persécutée par des juifs, par le judaïsme classique. Mais ça l'a changé grosso modo, là. En tout cas, il y a eu un tournant à la destruction de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ, parce que là, bon, ça a changé pas mal de choses. Cette persécution religieuse est passée aux mains des religions païennes. OK? Il ne faut pas qu'il n'y en avait pas avant, puis ça, mais ça l'a vraiment, il y a eu un changement là. Religion païenne des quatre coins de la terre, là, je veux dire. Puis quatre coins de la terre, c'est pas biblique, ça, comme expression, parce que, en tout cas, aux 80, OK? Ça, c'est plus biblique. Et donc, ne soyons pas surpris de l'opposition religieuse qu'on peut rencontrer. Ça a toujours été le cas. Et ici, j'ai dit, il va y avoir des loups comme ça dans les milieux religieux. Souvent, ces gens-là, c'est au nom de Dieu, en suivant scrupuleusement leur doctrine et leur pratique, qui s'opposent à Dieu. Okay, ils le font au nom de Dieu. L'exemple le plus fameux, populaire, pas populaire en tout cas, mais connu, dans le Nouveau Testament, c'est Paul, qui persécutait au nom de Dieu. Mais savez-vous, maintenant, il y a quelque chose de spécial, juste mettre un petit... Des fois, c'est pas toujours ce qu'on appelle religion qui persécute religieusement. On a des mouvements sociaux qui sont comme des religions en ce moment. Le mouvement de l'environnement, le mouvement de tout le politically correct, tu vois, c'est vraiment comme une doctrine. Il y a une doctrine, okay? Il y a tout un enseignement, il y a des pratiques, il y a des rituels. Tu sais, je veux dire, le recyclage, là, c'est sacro-saint. Puis, tu sais, on jette manger dans du plastique là, avec des. Tu sais, ça se fait pas. Là, c'est une abomination dans ces religions-là. Tu sais, puis, bon, c'est un parallèle très moderne, puis tout ça. Mais l'idée, c'est que. On voit. Souvent, des gens qui s'opposent aux chrétiens au nom de toutes sortes de doctrines et pensées religieuses. Et même des fois, des rangs même de nos églises, et c'est déjà arrivé, comme ça le dit d'ailleurs dans 1 Jean, que certains sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, c'est évident, à cause qu'ils se sont apostasiés. Donc ça, c'est une première catégorie où est-ce que les loups se manifestent. Ensuite, au verset 18 à 20, il y a les loups dans le gouvernement, OK? Ça dit au verset 19, « Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de la manière... » pardon, verset 18. « Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. » Bon, puis là, ça dit, vous n'aurez pas à vous inquiéter de ce que vous allez dire. Surtout verset 18, « Les loups dans le gouvernement. » OK, ça parle de gouverneurs, ça parle de rois. Et évidemment, on regarde le contexte biblique, on regarde toutes les Césars, okay? La dynastie des Césars, tout ça, comment ils ont donné des troubles aux chrétiens. Donc peut-être là-dessus, le plus populaire serait probablement Néro, qui s'est servi des chrétiens comme des boucs émissaires, des scapegoats, ces boucs émissaires, pour leur mettre toutes les blâmes que lui-même avait, tu sais, les crimes que lui a fait, il les mettait sur le dos des chrétiens, OK? Mais que dire aussi des gouvernements communistes, des gouvernements totalitaires, et même on apprend dans la Bible, selon, tu sais, dans Daniel, il y a aussi des références dans Ézéchiel, dans Éphésiens, des fois c'est des références directes, des fois c'est des allusions, qu'il y a des forces démoniaques dans ces gouvernements-là qui agissent contre les chrétiens, OK? Je pense qu'aussi on peut dire que c'est vrai en ce moment, parce que les forces derrière qui ont pris d'assaut nos gouvernements mondiaux, c'est certainement... des forces démoniaques. Je le disais ce matin, ce qu'on vit, c'est le côté visible d'une guerre spirituelle invisible. Ça, c'est clair et net. OK? Et on va développer tantôt, on va revenir sur le verset 20, là, mais vraiment, le Saint-Esprit, c'est celui qui s'occupe de son témoignage. C'est lui, le Saint-Esprit, qui va diriger ses enfants à parler selon sa pensée, sa sagesse. Et comme il le fait toujours à travers l'histoire. Connaissez-vous Polycarpe? Qui est un des, on dit, un père de l'Église, était disciple de Jean. OK? Vous n'êtes pas pire, ça, pareil, hein? Fait que Polycarpe, avant sa mort, a eu une dernière fois la chance de prêter allégeance à César, parce que c'était bien dans la mode dans le temps, OK? Fallait donner, là. Puis c'était plus que prêter allégeance, c'était à lui attribuer la divinité, OK? Parce que c'était ça l'idée, là. Il se prenait pour des dieux, les Césars. Et donc, voici les derniers mots qui ont été sur ses lèvres avant sa mort. Et ça, c'est bien. Quand Jésus-Christ, c'est les derniers mots qui sont sur tes lèvres avant ta mort, là. Ça, c'est vraiment une bonne façon de finir. Et vous connaissez peut-être ce que je vais vous citer là, mais il dit « J'ai servi mon Seigneur pendant 86 ans et il ne m'a jamais traité injustement. Alors, comment pourrais-je blasphémer mon roi et mon sauveur? » Ça, c'est mourir de façon digne. Et évidemment... Il est mort avec ça et il n'a jamais prêté allégeance à César. Et ça, ça souligne quelque chose. C'est pas important ce que le monde pense de nous au bout du compte. Savez-vous, avec des paroles de même Polycarpe, là, alors, il pensait peut-être quelque chose de Polycarpe, mais le plus important, ça les a fait réfléchir sur le Seigneur de Polycarpe. Puis quelqu'un qui parle de même, wow! Je veux dire, il y a une couple qui ont dû penser... au Seigneur, au Sauveur de Polycarpe avec telle parole. Et donc, l'important, c'est pas ce que le monde pense de nous, c'est ce qu'il pense de notre Seigneur, que nous représentons. On est juste des représentants de notre Seigneur. D'ailleurs, c'est ça toute l'idée de martyr, témoin. Quand on lit dans la Bible, quand ça dit témoin, nous, on lit témoin en français, mais dans la langue originale, c'est le mot duquel on a martyr. Et donc, c'est ça, quelqu'un qui va jusqu'au bout pour rester fidèle au témoignage de son Seigneur. Et nous, on l'a pris martyr, ça veut dire mourir pour le Seigneur. C'est l'ultime de ça, mais il y a tout ce qui va avant aussi, là. OK? Et c'est ça le témoignage. C'est ça notre témoignage. En fait, c'est pas vraiment le nôtre. C'est celui de notre Seigneur. Donc, les loups dans la religion, les loups dans le gouvernement, même les loups dans la famille, regardez verset 21. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Ça, en passant, c'est une citation de Michée 7:6. C'est bon de ne pas arrêter de lire là. Si vous le lisez dans Michée, puis si vous faites juste méditer là-dessus, vous allez être un peu déprimé, mais au verset 7, ça dit « Pour moi, je regarderai vers l'Éternel, je place mon espérance dans le Dieu de mon salut et il m'exaucera. » Donc au moins, ça n'a pas fini là. Il a regardé à Dieu, il a levé les yeux à Dieu, c'est le cri de la foi de Michée. Mais bon, ça c'est une petite parenthèse là, mais... Littéralement, il y a des gens même dans cette église ici, et bon, c'est quelque chose qu'on voit dans toutes les églises, mais qui sont rendus là, où est-ce qu'il y a un abandon des gens les plus proches. Et on peut le voir aussi dans nos familles élargies, mais j'espère qu'on ne va pas arriver, mais c'est ça, au fait qu'un en livre un autre. Et s'il y a quelque chose qui me surprend en ce moment, c'est comment le gouvernement encourage, puis certains aussi le voient, la délation. Bon, les gens le font pour les voisins, on le connaît peut-être moins, puis des fois, tu sais, t'aimes pas ton voisin, ça peut être l'occasion de te venger. Mais là, quand on fait ça dans un contexte familial, ici, là, c'est, je veux dire, des frères, le père, les enfants contre les parents, ouf, c'est quand même assez, moi, ça m'abasourdit de voir des gens aussi proches de même que tu les livres pour qu'ils soient maltraités, puis qu'ils soient, wow! Donc, ça nous parle des loups dans la famille. Et c'est quoi notre réponse à ça? En tant que chrétien, on doit professer la vérité dans l'amour et on reste fidèle à notre Seigneur. Quelqu'un a dit, il y a seulement deux choses qui sont plus fortes que l'amour naturel. Une est issue de l'enfer, l'autre du ciel. La haine, puis l'amour qui vient de Dieu. Je pense que le choix est évident pour nous chrétiens, n'est-ce pas? Et finalement, verset 22, il y a les loups dans la société. Verset 22, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Et ici, évidemment, quand c'est dit « haïs de tous », ça ne veut pas dire que chacun qu'on rencontre dans la rue nous haït tous, mais c'est une expression pour parler que le sentiment général envers les chrétiens, envers Christ, c'est une animosité, c'est de l'opposition, c'est pas des sentiments favorables. Et je pense qu'on sait que c'est vrai, n'est-ce pas? La chrétienté n'est pas tendance, la chrétienté est biblique. Mais ça dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et ici, l'idée, c'est pas persévérer pour être sauvé, c'est persévérer parce qu'on est sauvé. Quand on est sauvé, Dieu nous garde, nul ne peut nous ravir de sa main. Et persévérance des saints, OK, ceux qui connaissent d'où ça vient, là, pas rentrer là-dedans ce soir, mais on peut dire que c'est le côté divin. Dieu préserve, OK, ses enfants, donc il persévère, puis je dirais du côté humain, mais c'est une foi inébranlable. On s'accroche à Dieu coûte que coûte. Un peu comme je l'ai dit avec Polycarpe, qui même, jusqu'au bout, a dit « Je ne vais pas dénoncer mon Seigneur. » Donc ça, c'était ma longue introduction, mais je voulais juste vous amener ce concept-là des loups, qu'on peut s'attendre à les avoir dans toutes les sphères de notre vie, dans le fond. Ces quatre domaines-là, ça fait le tour de toutes nos relations qu'on peut avoir. Et donc, j'aimerais maintenant qu'on considère, et on finit de parler de la mission apostolique, j'aimerais qu'on considère maintenant les trois derniers éléments de la mission apostolique. OK? Et on va faire ça simplement et brièvement, vous allez voir. D'abord, le septième élément, parce que on a déjà vu six, là, donc le septième, ce soir on se rend jusqu'à neuf. On avait trois par message. On a le mentor de la mission. Et ça, c'est le Saint-Esprit. Regardez au verset 19. « Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à leur main. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » Oh, quel élément important de la mission apostolique. Et quand je dis mission apostolique, là, je veux juste préciser, on n'est pas des apôtres, mais on rentre dans la même mission, OK? Parce qu'on sait, dans Éphésiens, ça dit que les apôtres ont posé le fondement, les apôtres, les prophètes, puis là, nous, on est sur la même édifice que les autres ont posé, puis on bâtit la même affaire, OK? Quand je parle de mission apostolique, là, je ne dis pas qu'on est une gang d'apôtres et qu'on se pense bon, là. C'est juste que apôtre, c'est envoyé. Je l'avais expliqué dès le début, je veux juste ramener là-dessus. La mission apostolique, c'est la mission de ceux que Christ envoie. Et je ne sais pas, vous savez, mais on est tous envoyés dans sa mission. On est tous. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes un représentant de Jésus-Christ, vous êtes son envoyé dans les endroits où est-ce qu'il nous envoie chacun dans une semaine comme ce qui nous attend cette semaine. OK? Donc, un élément primordial ici, le mentor de la mission. Et là, j'aimerais ici, c'est un peu, ça va être, comment on pourrait appeler ça, un éditorial. Mon opinion, je ne sais pas si vous le voulez, peut-être que vous ne voulez pas, bouchez vos oreilles. Mais je pense que c'est un élément qui a été douloureusement négligé dans nos églises pendant longtemps. Mais le Seigneur, dans sa bonté, nous ramène à lui-même, à notre consolateur. Le mentor, là, c'est le Saint-Esprit, c'est aussi c'est notre consolateur, notre mentor. C'est lui qui nous dirige dans toute la vérité. Et c'est de plus en plus évident que le Seigneur nous ramène aux besoins de la chrétienté biblique, comme on le voit dans le livre des Actes. Et au chapitre 4, là, il y avait des menaces aux autres aussi. Quelle a été leur réponse? Seigneur, vois leurs menaces, puis donne-nous simplement de prêcher avec assurance. C'est quoi la réponse? Dieu leur a donné la réponse avec le Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit, puis il prêchait avec assurance. C'est quoi? Le mentor, celui qui dirige ses enfants dans toute la vérité, c'est lui qui s'est occupé de ça. Il a été la réponse à la prière des apôtres. Puis ici, quand ça dit, c'est pas vous qui va parler, c'est le Saint-Esprit qui va parler. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez sûrement déjà expérimenté ça. Vous êtes face à une situation, des fois ça arrive en témoignant à quelqu'un, en parlant du Seigneur, des fois dans une situation un peu « ouh, c'est pas trop », puis ça a l'air de nous venir de nulle part. Les choses à dire avec sagesse, avec amour, avec fermeté, bien ça vient pas de nulle part, ça vient du Saint-Esprit, ça vient de notre mentor. Vous avez sûrement, si vous êtes un enfant de Dieu, moi c'est tu sais, ça dit que toute grâce excellente nous vient du Père des lumières. Ça, c'est une de mes grâces préférées. C'est donc merveilleux quand t'es là, t'es comme à court, puis boum! Tu sais, c'est comme instantané pour là, le moment, avec la personne à qui tu parles, puis c'est pas toi qui parles, ça fait... It flows, ça coule. C'est ça, ici, de ce dont Jésus parle. Donc, on n'est pas obligé d'attendre d'être amené devant un tribunal, devant ça. Le Saint-Esprit fait ça avec ses enfants. Et des fois, c'est face à la moquerie du monde, l'incrédulité, la méchanceté, l'opposition à l'Évangile. Et Dieu nous donne, sur le moment, ce dont on a besoin. Et comment ça nous fait apprécier et goûter comment le Seigneur est bon. Et comment ça nous fait rappeler l'importance de notre relation avec l'Esprit de Dieu. Comment c'est unique et incomparable. Et je vous pose la question, comment est ta relation avec le Saint-Esprit ce soir? En as-tu une? Est-ce que tu le connais? Parce que lorsqu'on connaît Jésus-Christ, on le connaît par l'Esprit de Dieu. C'est comme ça qu'on vient à Christ, c'est comme ça qu'on marche en lui. C'est toujours par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit nous parle. Et là, je ne vous dis pas dans le sens d'entendre des voix là, comme quelqu'un qui a un araignée au plafond, là, mais je parle de... Mes brebis, Jésus dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. C'est une conviction, c'est une direction. Regarde comme un matin, t'as pas vu une grosse vision, tout ça, mais c'est clair, on priait, puis le Saint-Esprit a communiqué sa pensée. Puis on embarque là-dedans. Ça, mes amis, ça doit être quotidien, ça doit être habituel. Bon, il y a des choses qui sont plus dures que d'autres, on a pas mal de bruit dans notre âme, mais je veux dire, ça doit être quelque chose qui est habituel dans la vie d'un enfant de Dieu. Ça doit nous caractériser, non seulement de l'entendre, mais de lui obéir. Le Seigneur nous parle comme un général qui parle à ses troupes, là. C'est pas des suggestions. Le Saint-Esprit, il nous parle pas comme si, je veux dire, il nous laissait le choix. Il parle avec autorité. Jésus parlait avec autorité. l'Esprit de Jésus nous parle avec autorité aussi. Quand il nous parle, il nous commande d'obéir, de lui faire confiance. Ça, je disais ce matin, hein, si on l'entend, il faut qu'on soit prêt à obéir coûte que coûte. Même s'il y a un prêt à payer, même si ça nous fait peur. C'est, vous vous rappelez, c'est le défi de ce matin que j'ai donné. Juste être disponible, Seigneur, je veux entendre ta voix. Puis je vais avoir la grâce d'être capable d'obéir quand je t'entends. Et l'Église de Jésus-Christ et le monde a désespérément besoin de ça. Que le Saint-Esprit travaille dans les enfants de Dieu, parce que c'est comme ça qu'il dirige, comme là il est en train de faire pour emmener le message, puis tout ça. On n'a pas besoin de l'ingéniosité humaine, d'essayer de se... On a juste besoin d'écouter celui qui dirige, puis de lui obéir. On n'a pas besoin d'idées. On n'a pas besoin de nos idées. On a besoin des siennes. C'est notre mentor. C'est lui qui nous dirige. Et je crois que ça, ça a été l'ingrédient manquant qui explique le peu de fruits dans la mission de l'Évangile depuis des années. Il faut donc revenir, pas à la bonne méthode, mais à celui qui est notre mentor, puis qui dirige. C'est drôle, j'ai un exemple live. C'est quand même le fun, hein? Tu sais, cette affaire-là d'idée de traiter, je pense que c'est un exemple de ça. C'est notre mentor qui nous dirige, puis on va voir, puis il faut tout s'appuyer sur lui, puis les, toute la façon de faire, puis tout ça, puis pour les résultats aussi. Mais c'est une bonne, un bon exemple. Par rapport à ça, il est notre mentor, il est notre berger, il est celui qui nous donne la capacité, notre enabler, il est notre guide. Okay, le Saint-Esprit, c'est, comme dirait M. Côté, c'est le contremaître général de l'Église. C'est lui qui dirige toutes choses dans l'œuvre de Dieu. Et Dieu, dans sa grande bonté, nous met en face notre besoin de revenir à lui, notre mentor. Et ça nous amène au huitième élément de la mission apostolique. C'est tout des M, OK? Faut que j'ai remarqué depuis le début, là. Le mentor, maintenant la misère de la mission apostolique. Regardez versets 21 et 22. Le frère livrera son frère à la mort, son père, son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La misère de la mission apostolique, ces versets, c'est clair, hein? Ça nous décrit l'atmosphère spirituelle et la dure réalité à laquelle la majorité des chrétiens du Nouveau Testament et de l'histoire, je le disais ce matin aussi, ont été confrontés. C'est ça la chrétienté pour la majorité de ceux qui ont cru en Christ depuis qu'il est venu sur terre. Puis même avant, parce que la vie n'était pas facile pour un Noé, un Abraham et compagnie, là. Et j'ai commencé à lire un livre. Camille l'a lu, puis elle dit « Ah, papa, faut que tu lis ça. » Puis finalement, là, je l'ai pris, puis j'ai commencé à lire. C'est vraiment bon, cette histoire. Elle s'appelle Esther Kim. C'est quoi le milieu de son nom? Anne, oui, en tout cas. Une Coréenne, nord-coréenne, mais dans le temps, c'est écrit dans le temps de la deuxième guerre mondiale, puis il n'y avait pas encore, la guerre de Corée, c'était après, fait qu'il y avait juste une Corée, là. Mais dans le coin de Pyongyang, fait que c'est le nord. Et il y a juste quelque chose qu'on voit, je vais vous en reparler un peu plus d'elle, cette petite madame-là, dans un instant, mais juste quelque chose que je vois là-dedans, comment c'est une candidate très... humainement, là, dit, mon ami, comment ça que Dieu choisit qu'elle est faible, c'est une femme, puis, tu sais, à ce que Dieu demandait, ça prenait du courage, puis, tu sais, puis, aller parler devant les autorités japonaises, elle qui était coréenne, OK, puis, tu sais, mais faible, mais aussi, tu sais, malade, là, facilement pogner des infections pulmonaires, puis tout ça, puis, les hivers sont pas faciles dans ce coin-là, puis, elle grelottait comme une bonne, tu sais, puis, pas faite fort, là, tu sais. Mais c'est drôle comment, probablement ça, c'est une étude aussi qui devrait, aurait dû être morte à peu près 10 fois, là, de toutes sortes de raisons. Mais elle a persévéré à travers tout ça. Pourquoi? Je vais vous donner le secret dans un instant. Mais, juste pour vous dire, elle a eu beaucoup de misère à cause de Christ. OK? Je vous laisse un peu en haleine avec ça. I leave you in suspender. Non seulement nous connaissons si peu l'atmosphère et la réalité de ce qui est décrit ici, OK? Puis c'est pas un reproche que, si tu veux, Dieu nous a mis dans un pays, on est béni, je veux dire, on a été longtemps avec des libertés et tout ça, mais on comprend le contexte historique de la chrétienté, ça n'a pas été, OK? Fait qu'on connaît si peu de ça. Mais voici, je pense, qu'est-ce qui nous manque. OK, oui, c'est une bénédiction d'avoir la liberté et tout ça. Bon, là, on est en train d'en perdre, là, mais... Voici, par exemple, ce que je trouve qui est grave et qui est triste. On est étranger à la bénédiction, au trésor de grâce qui est dans la misère de la mission apostolique. Quand on lit des personnes comme ça, quand on est témoin de ce que des gens ont passé au travers, de persécution, de difficultés, puis qu'on voit comment ces gens-là, ils vont dire, c'est pas normal là, comment ils sont, puis comment ils ont passé au travers, tu sais, c'est le trésor de la grâce de Dieu. Ils ont trouvé, je veux dire, Dieu est tellement précieux dans des moments comme ça que ça ne s'échange pas. En fait, vous connaissez tous Hudson Taylor, qui était en Chine. Et vous savez que, bon, pour eux autres aussi, c'était pas évident, puis tout ça. Puis bon, maintenant, ils ont même eu aussi de la persécution, parce que, bon, des gens voulaient faire un coup en disant, « Ah, ils vont vous donner de l'argent si vous allez à telle journée-là. » Fait que là, il y avait une foule qui était autour de la maison, puis ils disaient, « Hey, vous êtes supposés me donner de l'argent. » Puis là, M. Taylor était parti, puis restait, il y avait juste Mme Taylor avec son amie qui était là. Deux petites madames, une maison contre une foule. Je veux dire, c'était comme les chances étaient peu... Fait que vous savez comment une foule c'est pas très, tu sais, c'est pas contrôlé. Fait que là, il commence à se crinquer, puis là, finalement, il rentre dans la maison, puis il saccage tout. Puis les madames, bon, heureusement, leur vie a été épargnée, mais tu sais, ils étaient maganés, puis tout ça. Puis quand elle a écrit une lettre, après, eux autres étaient anglais, elle a écrit une lettre en Angleterre, aux églises qui les soutenaient. Elle a décrit ça brièvement, puis elle a dit, « Mes amis, tout l'or qu'en Angleterre n'aurait pas pu égaler le trésor de gloire et de joie qu'on avait à ce moment-là. » Vraiment, oui, parce qu'ils souffraient pour leur sauveur. Puis Dieu leur a donné une paix, une joie. Dieu les a rencontrés là. C'est ça le trésor de grâce. Oui, c'est pas facile. Je veux dire, ils n'ont pas couru après que les gens viennent saccager la maison. Mais Dieu les a rencontrés là d'une façon unique et incomparable. Pour qu'elle écrive dans sa lettre, vous n'auriez pas pu me donner tout l'argent qui est en Angleterre, puis il y en a quand même pas mal. Pour ce moment-là, cette gloire, cette joie d'avoir le privilège de souffrir pour notre Seigneur et Sauveur. Wow! Quand même quelque chose, hein? Mais soyons honnêtes, ça nous fait peur de souffrir, hein? Pourquoi? Parce qu'on compte encore notre vie plus précieuse que celle de Jésus-Christ. Et c'est ça le problème. Mais je vous dis, il y a un trésor. La Bible dit, Dieu sauve le malheureux dans sa misère. Et c'est par la souffrance qu'il avertit. Dieu nous sauve dans notre misère. Même s'il fallait qu'on meure, on va être sauvé pareil. Parce que si on meurt, ça va direct au ciel. OK? Et ça, c'est juste en pratique que ça se vit, mais il ne faut pas qu'on ait peur. Il ne faut pas qu'on soit figé. Il faut pas que, si on est face à la souffrance, c'est une des choses que je vois dans le livre, et là, je vais vous en parler un peu plus de cette Madame Esther Kim, mais elle était tout le temps pétrifiée à tout ce qui pouvait arriver parce qu'il y avait menace devant menace de ce qui pouvait arriver. Puis Dieu la délivrait tout le temps. Fait qu'elle a appris à ne plus avoir aussi peur de ce qu'elle avait, de ce qui pouvait arriver. OK? Parce que, dans le fond, si on fait confiance à Dieu... avec ce qu'il nous envoie, ce qu'il permet dans notre vie, on peut apprendre à voir que c'est des rendez-vous que Dieu nous donne. Au lieu d'avoir peur, de dire « Ah, oui, ça me fait peur. » Mais puisque Dieu est Dieu, il va me rencontrer là, n'est-ce pas? Si Dieu m'envoie ça dans ma vie, même si ça me fait peur, si Dieu est Dieu et qu'il est mon Dieu, il va me rencontrer exactement là. Ce rendez-vous de la grâce. Et cette Madame Esther Kim, comme je disais, qui était frêle et fragile, qui s'est retrouvée à plusieurs reprises. Bon, elle a fini par aller en prison, puis c'était... Ça, je ne suis pas encore rendu là. Elle n'est pas encore en prison, ce que je suis rendu. Mais toutes sortes de situations difficiles, puis tout ça, puis elle avait des peurs et toutes sortes d'appréhensions. Mais aussitôt, quelque chose qui m'a frappé, avec ce que j'ai lu jusqu'à maintenant, aussitôt qu'elle levait les yeux au ciel, car s'abandonner à Dieu, OK? Parce que dans sa faiblesse, elle criait à Dieu. Elle expérimentait la grâce de Dieu, le relâchement de la joie, de la paix, la confiance du Saint-Esprit, son mentor, qui la remplissait de confiance, puis elle persévérait dans l'adversité. Ça, c'est l'idée de celui qui persévérera jusqu'à la fin. Elle faisait juste crier à Dieu, puis Dieu la faisait passer au travers. Puis des fois, tout seul avec de la misère, c'est drôle parce qu'elle envoyait un petit monsieur, un phénomène. Lui au ciel, je vais voir dans quel coin il se trouve, j'aimerais ça aller le voir. Elder Lee, c'est-tu Lee? Un méchant bonhomme, je veux dire, un monsieur tout vieux avec une canne, puis tu sais, je veux dire, c'est pas une jeunesse, puis mais confiant dans le Seigneur au point que, en est, bon, tu sais, là, tout ce qu'il va, elle, sa tête est apprise, parce que vu qu'elle s'est tenue pour le Seigneur, là, elle est recherchée par les autorités, mais Dieu envoie ce monsieur-là, puis dit, ah, je priais pour te trouver, puis il trouve Esther Kim, il la trouve où est-ce qu'elle était, cachée, puis il dit, je sais, Dieu veut que j'aille au Japon pour témoigner de Jésus-Christ, puis Dieu m'a envoyé vers toi parce que tu connais le japonais. Lui, il connaissait pas un mot de japonais. Fait qu'il dit, on va faire équipe, c'est, tu sais, fait que la fille comme moi, elle était comme face à un fait accompli. Mais le gars, bon, il faut qu'il prenne le train, il faut qu'il prenne le traversier. Là, elle dit, t'as-tu un ticket pour le train? Ah, pas besoin. Fait que là, il y a juste un... Mais non, là, puis là, elle est toute nerveuse. Il est assis à côté, il parle fort, tu sais. Puis elle est là, toute peureuse, tu sais, puis là, elle dit, il arrête une station, oh, les polices vont venir. Ben, fait que là, elle dit, OK, d'abord, vu que t'as peur, je vais aller m'asseoir plus loin, fait que s'assoit plus loin. Là, il y a des polices qui rentrent pour prendre l'étiquette de tout le monde. À son grand étonnement, lui, qui voulait même pas se cacher, ils ont comme passé, Dieu a rendu leurs yeux aveugles. Puis au point que lui, il était même pas, il était assis, il passe à côté, puis après, il va la voir, il passe le policier, puis il parle full fort, puis il dit, oh, non, non, il dit, hey, merci Seigneur, puis il dit, don't you get it? God is my refuge! Il dit, est-ce que tu comprends pas? Dieu est mon refuge! Parce qu'elle a dit, mais voyons, t'es fou! Il dit, non, tu comprends pas! C'est pas moi qui est fou, Dieu est mon refuge! Il avait pas peur! Puis il retourne encore en poussant le policier, puis il va s'asseoir! Puis après ça, quand c'est le temps d'aller dans le traversier, parce que le Japon c'est une île, ça prend un passeport, ça prend un ticket, encore là, il y avait rien, puis elle est toute là, toute énervée. Il passe comme une lettre à la poste, il passe devant les policiers, puis là, il est rendu sur le bateau. Puis là, elle en revient pas. La fille, il fait bye-bye du pont. Hey, le bateau s'en va bientôt, viens-t'en. Là, elle était tellement toute énervée, puis tout ça. Elle cherche son ticket, puis son passeport dans sa sacoche. Elle n'est pas capable d'être devant les deux messieurs qui. Elle avait tout ce qu'il peut. Elle traversait. Il passe là, il vient, puis il dit ah, non, je vais te le trouver. C'est lui qui le trouve, il donne. Puis ils n'ont jamais demandé rien au monsieur. Tu sais, il est revenu. Mais savez-vous quoi? C'était la grâce de Dieu qui fait ça. C'était le trésor de la grâce de Dieu. Elle était faite à y envoyer quelqu'un qui avait une confiance inébranlable dans ses gens. Dieu peut faire des affaires de même. Une chose que je remarque, cette femme-là essayait pas de se faire croire qu'elle était plus forte qu'elle était. Elle dit, oh, j'ai pleuré, j'avais peur, puis tout ça. Même à un moment donné, elle priait, comment ça, Dieu, je suis une femme, je suis toute faible, puis tout ça, parce qu'il y en a, bon, il y a des gens qui étaient persécutés, puis il y a des hommes comme ça qui vivaient dans les montagnes, puis qui mangeaient des racines, des affaires, tu sais, ben, ils connaissent ça, là-bas, les racines, tu sais, puis tu peux survivre avec ça quand tu connais ça. Elle était toute chétive, puis tout ça, mais hein, Dieu, c'est un ami. En passant, elle n'est pas morte, elle s'est mariée, puis tout ça. Maintenant, elle est morte, là, parce que ça fait longtemps, mais. Elle n'était même pas encore morte? Ah, il faudrait qu'on check ça. En tout cas. Tout ce que je veux vous dire avec ça, c'est le message que le Seigneur transmet avec des personnes de même, des situations comme ça. C'est que sa mission, là, elle s'accomplit simplement avec des enfants qui se confient en lui. Peu importe c'est qui. Pis c'est, je veux dire, cette madame-là, là, c'était pas une candidate, comme je dis. Moi, je l'aurais pas choisi. Là. Je veux dire, hey, mon ami, tu vas en arracher. Non, mais Dieu l'a choisi. Il dit, c'est toi, c'est ça que tu vas faire. Puis, wow! Fait que ça aussi, à un moment donné, vous voulez le lire. Je ne l'ai pas fini, là. Mais c'est ça. Son espérance dans un monde désespéré était la lumière qu'il avait besoin, qui a triomphé des ténèbres. Et mes amis, c'est ça qu'on a besoin de tout aussi. C'est pour ça que ça vaut toute la peine d'endurer toute la misère que le Seigneur peut permettre dans notre vie. Parce que c'est comme ça que Jésus-Christ est manifesté. C'est comme ça qu'il est magnifié dans nos vies. Quand je lis une histoire de même, là, j'admire pas Esther Kim. Ben oui, je l'admire là, quand même. Mais je suis émerveillé à un Dieu grand comme ça qui prend une petite personne de même, toute faible, puis qui fait des si grandes choses. Ça, c'est mon Dieu. Là, je suis fier de mon Dieu. On peut-tu dire ça? Ah oui, je suis fier de mon Dieu. Parce que, wow, je suis là. Et finalement, je conclue avec le verset 23, le maître de la mission. Verset 23. Quand vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes, que le Fils de l'homme sera venu. Je ne vais pas rentrer trop en détail sur ce verset-là, mais c'est évident qu'ici, il y a une portée eschatologique, là, parce que les disciples n'ont pas tout accompli ça. Okay? Jésus, ici, c'est une prophétie télescopique. Là. Il y avait quelque chose qui commençait là, mais ça allait beaucoup plus loin dans le temps pour l'accomplissement de ces choses. Okay? Parce que ça ne s'est pas accompli de leur temps. Là, okay? Bon, ça, c'est clair. Là. Mais ce que je veux souligner ici, avec le verset qu'on vient de lire, il dit quand le Fils de l'homme va revenir. Il faut se rappeler que Jésus-Christ, c'est lui qui a commencé la mission, c'est lui qui l'a dirigé, c'est lui qui va la terminer aussi à sa façon puis en son temps. Puis quand les disciples lui ont demandé, il dit c'est pas à vous de connaître les temps que le Père a fixés d'avance de sa propre autorité. OK? Le Dieu trinitaire est en charge de la mission apostolique. C'est lui qui s'occupe de tout. Nous, c'est pas à nous d'essayer de trouver le quand, du comment puis du pourquoi. Notre part, c'est d'avoir une allégeance, une loyauté indéflectible envers le maître de la moisson. C'est juste ce que Dieu nous demande. On n'est pas appelé à tout comprendre et à faire un sens de tout ce qui arrive. Il faut juste faire confiance à Dieu, à notre chef et à notre maître. Et vous savez, Dieu est merveilleux. Puis merci Seigneur parce qu'il a pourvu lui-même, avec lui-même, par lui-même, le moyen pour arriver à accomplir cette mission. Parce que dans le même passage, quand il s'est demandé, « Ah, c'est quand le royaume? » Il dit, « Faites-vous en paix avec ça. » Mais vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit. Puis c'est lui qui va vous rendre capable. C'est lui qui va faire de vous des témoins à partir d'où vous êtes à Jérusalem, mais plus loin, en Judée, en Samarie, puis jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui le maître de la moisson. Jésus-Christ a dit ça, en parlant du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Jésus, c'est le même Dieu trinitaire, c'est lui le maître de la moisson. Et il est en nous, Christ en nous, l'espérance de la gloire, et c'est ça qui fait que la mission peut s'accomplir. Maintenant, je veux terminer avec cette pensée. Okay, une pensée, on pourrait dire, transitoire, parce que là, on vient de considérer, dans les dernières semaines, la mission apostolique. À partir de la semaine prochaine, Dieu voulant, on va considérer dans les versets 24 à 42, le caractère apostolique, OK? Ne commencez pas à lire là, pendant que je parle, parce que vous ne m'écouterez plus, là, mais vous pourrez lire plus tard. Mais le caractère apostolique, c'est le caractère qui permet à la mission apostolique de s'accomplir. Et je veux juste vous donner quelques mots là-dessus, je pense que c'est important. Pour un peu préparer notre pensée à ce sujet qui s'en vient là, pour les prochains messages, l'efficacité de la propagation de l'œuvre de Dieu se fait pas parce qu'on... Écoutez bien, là, l'efficacité de la propagation de l'œuvre de Dieu ne se fait pas parce que nous avons essayé de faire pendant trop longtemps, mais ça se fait parce que nous avons négligé de faire pendant trop longtemps. Je vous explique. Je vous répète. La propagation, l'efficacité de la propagation de l'œuvre de Dieu ne se fait pas parce que... OK, pas à cause de... parce OK? Ne se fait pas par au moyen de ce qu'on a essayé de faire pendant trop longtemps, mais ça se fait au moyen de ce qu'on a négligé pendant trop longtemps. Qu'est-ce que je veux dire par là? On s'est évertué à accomplir l'œuvre de Dieu avec les multiples et bons moyens de la mission apostolique. Parce que n'est-ce pas ce qu'on a vu? Hein? C'était tous des bons moyens, c'est de l'œuvre apostolique, OK? Mais voici l'erreur. On a essayé ça, sincèrement, et vraiment de tout cœur, mais nous avons honteusement négligé l'importance du caractère apostolique, mature, spirituel, qui nous permet d'accomplir cette mission. Autrement dit, on a mis la charrue avant les bœufs. On dit, on a une mission à faire, on va prendre tous les moyens pour faire cette mission. C'est important, cette mission. Amen, c'est vrai. Mais en mettant ça en premier, on a oublié le caractère qui va avec, la maturité spirituelle qui va avec, le caractère apostolique qui nous permet de l'accomplir. Je vous donne une illustration avec deux éléments. Okay? Je pense qu'on est en train de sortir de ça, mais à travers les années, on a eu... Vous savez, on parle du monde des fois qui ont le culte de la personnalité. Vous savez, on a ça dans nos milieux chrétiens, des cultes de personnalité de certaines personnes. OK? Certaines personnes, certaines églises. Pourquoi? Parce qu'ils ont du succès. Hein? Ici au Canada, hein, l'étoile montante puis l'église montante beaucoup. Dans mon milieu, c'était Faithway. Ah, ouais, les autres, hey, ça marche, ils ont du succès et tout ça. Peut-être dans le Bob Jones University. Hey, ça, la grosse université, tout le monde va là, va dire, c'est wow. OK? Mais je pense que c'est juste l'exemple-là, juste pour qu'on réfléchisse un peu sur ce qui est arrivé sur la suite des choses, pour vous montrer mon point. OK, on regarde, waouh, au niveau de la mission, ça marche, ça marche. Mais regardez au niveau du caractère. On a été aveugle au défaut de ces deux ministères-là qui étaient au niveau du caractère. Vous savez, la fin, comment M. Baker a fini. Savez-vous que c'est un homme qui était extrêmement seul? Je ne sais pas si vous saviez ça, mais c'est un homme qui criait pour avoir des amis et des relations significatives. Il était vu comme... Mais c'est quelqu'un qui était profondément seul. Bon, puis je ne dis pas que c'est la seule cause de tout ça, là, mais... Il n'y avait pas de relation au niveau humain très significative. Je ne sais pas sa relation avec le Saint-Esprit, c'est ça le plus important, mais bon. Bob Jones, hein, la place, c'est speak and span. C'est-à-dire, tout là-bas est comme parfait. Tout est top-notch chrétien, comme... En tout cas, c'était comme ça. Mais la dérive, je ne sais pas si vous savez, mais depuis les dernières années, il y a une dérive, beaucoup. Et elle est d'autant plus grande que, je veux dire, il y a un rang de mari de compromis. D'après ce que je comprends, je n'ai pas suivi ça en grand détail, mais je parlais avec frère Mossman, puis il me disait, ça va pas bien à Bob Jones. Là, t'sais. Pourquoi? Je pense que les deux ont un dénominateur commun. Ah, la mission, puis tout ça, mais le caractère apostolique, c'est ça la force, c'est pas juste de faire des choses. C'est comment qu'on le fait, puis c'est quoi la motivation. Mes amis, j'ai juste pris deux exemples, mais l'idée, je vais amener quelque chose qui est symptomatique de ce qui est pas mal le talon d'Achille de notre mouvement. C'est-à-dire qu'on a fait beaucoup de brasses camarades, beaucoup de mouvements dans la mission, mais une carence évidente de caractère spirituel. Ça aussi, c'était peut-être mon éditorial, c'est ce que j'en pense. Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec moi, mais... Selon mon observation, c'est ce que je comprends. Maintenant, je vous amène cette question. Pourquoi? Pourquoi il en est ainsi? Parce que nous avons négligé notre relation avec celui qui est spirituel. Pourquoi on n'a pas été spirituel? Parce qu'on a négligé notre relation avec celui qui est spirituel, le Saint-Esprit. Celui qui est sage, qui est bon, qui est... Puis Dieu, en ce moment, est en train de faire tomber des masques. C'est plus dur maintenant de jouer à l'église, puis de faire semblant, puis de faire le gros success story, n'est-ce pas? Regardez ceux que Dieu bénit, puis tout ça, c'est des gens qu'on n'aurait peut-être pas pensé. Mais c'est ceux qui se tiennent, qui disent, coûte que coûte, on veut rester fidèle à Jésus-Christ. La question, c'est plus le succès, le nombre, c'est est-ce que je vais fléchir le genou devant la pression, devant le monde, ou je vais rester fidèle à mon Seigneur. Voyez-vous comment Dieu ramène tout à lui-même? On a fait beaucoup de l'homme, puis tout ça, la mesure du succès. En ce moment, qui est au-dessus de la mêlée, puis qu'on remarque, ceux qui disent « Notre allégeance à Jésus-Christ est indéfectible, on veut lui rester fidèle. » Je pense que ça vient de Dieu. Je veux dire, tu ne peux plus jouer une game avec ça. Là. Je veux dire, si tu veux jouer une game, tu ne joueras pas longtemps là, parce que ça ne marche juste pas. Maintenant, je veux qu'on voit la bonté de Dieu là-dedans qui nous secourt de nous-mêmes. Dieu nous poursuit dans sa grâce. Pour pas qu'on se laisse égarer nous-mêmes, puis qu'on... Parce que, mes amis, aussi bonne est la mission apostolique, aussi noble, c'est pas ça notre identité. Et c'est ça l'idée qu'on va voir avec le caractère apostolique. C'est ça notre identité, c'est Christ. Le caractère apostolique, là, c'est Jésus-Christ. C'est lui le parfait apôtre. Jésus, c'est l'envoyé. Apôtre, ça veut dire envoyé, OK? Puis Jésus, c'est lui qui a le parfait caractère. Fait que c'est pour ça, si on fait toutes les missions qu'on est posées, si on n'a pas Jésus-Christ qui est manifesté en nous, à travers nous là-dedans, ça ne sert à rien. Donc voici mon appel ce soir, à la lumière de ce que je viens de dire. Pourquoi on ne prendrait pas juste le temps dans ce temps? J'aimerais qu'on prie en réponse aux prières. Et juste aller à Dieu, à celui qui restaure. qui est spirituel, puis qui rend spirituel ceux qui sont pas très, très spirituels, mais qui viennent à lui humblement, puis qui confessent leur faiblesse, leur incapacité. N'est-ce pas merveilleux avec Dieu? Dieu, il élève celui qui s'abaisse. Et vous connaissez Zacharie, chapitre 4, verset 6. L'œuvre de Dieu, la mission apostolique, c'est pas par notre énergie, par notre force, par notre ingéniosité, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Allons à lui. Merci Seigneur qu'on peut se confier en toi. Avec ces choses, tu nous as donné une grande mission, merveilleuse et noble. Ah, mais Seigneur, qui est suffisant pour ces choses? Ah, on a essayé bien longtemps d'être suffisant nous-mêmes. On a essayé avec beaucoup d'énergie, de zèle, de sincérité. Ah, mais on a souvent négligé Christ. On a négligé le Saint-Esprit, notre mentor, notre consolateur, celui qui nous rend capables, celui qui dirige pour la mission. Seigneur, alors qu'on prend un temps de prière, on veut répondre à toi, regarder à toi, invoquer ta grâce. Dans ces temps, Seigneur, dans lesquels tu nous places, un temps unique d'opportunité pour prêcher Christ. Le monde est à la dérive, il y a beaucoup de désespoir. C'est une occasion en or pour prêcher Christ et découvrir les trésors de ta grâce. Oui, il y a probablement de la misère, de la difficulté que ça implique, Seigneur, mais tant vaut la peine. Qu'on n'ait pas peur de souffrir, mais qu'on compte au contraire comme un privilège de pouvoir souffrir pour toi. On prie ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen.